matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir, matière à penser un peu spéciale ce soir en direct du Collège de France, en direct et en public, dans le cadre de la Nuit des idées, cette semaine, sur le thème de « Être vivant » en compagnie de Pierre Michon. Bonsoir Pierre Michon.
Bonsoir.
Ah mais c'est un honneur. Tout va bien ? Tout va bien, nous sommes dans un bel amphithéâtre, c'est quelque chose quand même, non ?
Ah, c'est un bel amphithéâtre, oui, c'est surtout le Collège de France, c'est un endroit prestigieux.
Bon, alors on a à traiter du thème, on va dire, parce que nous sommes de bons élèves. Être vivant, c'est une besogne, c'est une tâche ?
Non, ah non, certainement pas.
Alors qu'est-ce que c'est ?
C'est parfois une douleur, mais c'est parfois une joie. Quand vous m'avez proposé cet entretien, j'ai pensé à deux choses immédiatement. Être vivant, qu'est-ce ? J'ai pensé à la fin du Caligula de Camus. Je ne sais pas si ça vient de Suétone, je n'ai pas vérifié si Suétone le dit, mais certainement. Aux dernières paroles de Caligula, quand les poignards sont enfoncés jusqu'à la garde partout dans le corps, il dit, et c'est la fin de la pièce, « Je suis vivant, je suis toujours vivant hein ». C'est superbe.
Ça commence bien.
Et j'ai pensé aussi le côté mélancolique de la chose. Dans la vie de Rancé, Chateaubriand dit, à un moment, il parle de gens qu'il a connus, etc., ou que Rancé a connus, plutôt. Et il dit, on ne sait qui meurt, ni qui vit. Ça, c'est pas mal non plus.
Donc c'est entre les deux, en fait. Dans Rimbaud le fils, Pierre Michon, en 1991, vous écrivez que, au fond, Rimbaud danse sur un fil bien tendu entre la libre joie d'être vivant et la plus sombre joie d'être esclave de la mort. Et qu'est-ce qu'on fait sur ce fil ? Parce que là, on arrive au cœur de ce que j'ai quand même appelé la besogne, la besogne d'écrire. Parce que ce sont deux pôles qu'on peut appeler de différentes manières, mais sur lesquels, au fond, vous faites quelque chose de votre métier d'écrivain.
Oui, la fin de votre premier énoncé, là, Patrick Boucheron, c'était quoi déjà ?
Ah ben je peux le dire, ça me pose aucun problème.
Des idées.
Qu'importe, ce qui importe est d'avoir bien en main les grandes cymbales, de les savoir heurter et qu'elles fassent ce bruit qu'on entend dans Rimbaud. Il vient de m'arracher mes papiers. Non, mais j'ai énormément travaillé cette mission. Vous imaginez bien.
Mais non, esclave de la mort. Où est-ce que c'est esclave
Mais c'est
de
là,
la mort.
C'est là, esclave de la mort.
Ah oui, la libre joie d'être vivant. Non, entre la libre joie d'être vivant et la plus sombre joie d'être esclave de la mort. Oui, il est vrai qu'il y a une grande joie à être vivant, un appétit de le demeurer, enfin de bon. Mais que la perspective de la mort, parfois, quand on écrit, est un speed, est une force. Et là, je voudrais continuer un petit peu là-dessus, parce que cette histoire, être esclave de la mort. On l'est surtout, à mon avis, quand on est jeune. C'est-à-dire, on a beaucoup plus peur, en ce qui me concerne, de la mort dans la jeunesse que dans la vieillesse, pour moi. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus, un certain âge, on n'a plus tout à perdre, puisque l'aisance, on est de moins en moins esclave, je crois, de cette hantise.
Et pourtant, lorsque vous découvrez Rimbaud, c'est ce que vous expliquez dans Les Vies minuscules, en 1984, Pierre Michon, lorsque vous décrivez Rimbaud dans un almanach Vermeaux, d'ailleurs, vous êtes confronté directement à ce que vous appelez le modèle abrupt, et vous vous demandez quelle est donc cette poésie féroce qui vous fait devenir pareil aux morts et superlativement vivant. Vivant.
Oui.
Donc on continue à être sur notre terre.
Oui, il est vrai que ce tricotage entre la perspective de la mort et l'énergie à vivre est pour chacun certainement une constante. Enfin, on est pris dans ces deux mâchoires. Mais pour un écrivain, Il est très important, pour les écrivains que je lis en tout cas, il est très important que toute joie énoncée dans l'écrivain porte une ombre, même s'il ne la dit pas vraiment, même s'il la suggère en diverses métaphores ou en un objet, un arbre qui fait de l'ombre. Ça enrichit la joie qu'énonce cet auteur. Et pour la douleur, il est bon aussi que les auteurs parlent de la perspective de la joie ou de la joie passée. Ça, c'est plus bateau, c'est plus normal. Mais quand la joie est mise en scène, ça m'émeut beaucoup de voir le petit détail, le petit memento mori ou la petite vanité
qui est l'ombre de la mort
dans un énoncé, dans une phrase ou un paragraphe de roman.
Et d'ailleurs, ce passage que je vous ai lu, on le trouve dans La vie de la petite morte. Dans La vie de la petite morte, c'est-à-dire dans les fins des vies minuscules, où vous écrivez « J'aurais voulu écrire comme un enfant sans parole meurt, se dilue dans l'été, dans un très grand émoi peu dissible. »
Oui. Là, je me vantais un petit peu parce que j'aurais voulu mourir... Je ne sais pas, écrire comme on meurt, je ne suis pas sûr. Mais il y a dans tout l'attirail mythologique qui accompagne la mort dans les diverses mythologies, ce départ de l'esprit, ce départ de l'âme, ce qu'on appelle l'âme, et qui est, je dis que c'est un plumé, oui, quelque part. Je parle d'un Saint-Syrien, je dis que c'est un plumé. C'est-à-dire que il est bon, parfois, en écrivant, c'est comme ce que je disais sur la joie et la mort, il est bon, parfois, de parler, d'essayer de rédimer la chute absolue du corps par une sorte de métaphore d'âme qui s'en va. C'est quelque chose que j'aime toujours dans les livres. Évidemment, c'est la façon de ça n'est pas la façon des écrivains, enfin de Céline, quoi, des écrivains noirs, des véritables écrivains noirs, quoique ils le fassent aussi des fois. Ça ne peut pas leur... On est formé sur ce modèle. Le cas des Égyptiens où l'âme chrétienne s'envole, part. Et la vie continue. Et de toute façon, si elle ne continue pas comme ça, je lisais tout récemment, je me demande si ce n'est pas dans un livre de vous, une citation, mais je suis pas sûr, une citation qui dit « Il n'y a que le singulier qui soit mortel ».
J'en suis pas sûr, mais enfin...
Je sais pas qui l'a dit. Mais quand en vieillissant peut-être, on se méfie moins de sa singularité et on l'accepte davantage, on se dit tout à coup, mais comme c'est juste, je ne suis pas mortel du tout, je suis mortel en tant qu'être singulier qui s'appelle Pierre Michon, mais... au niveau moléculaire, au niveau de l'énergie de l'univers, je suis immortel. Bon, écoutez, je vais pas faire le...
Non, vous êtes immortel, il n'y a aucun problème avec ça. Vous êtes ici chez vous, Pierre Michon. Et de toute façon, ça rend bien compte du fait que les vies minuscules... Pardon, mais le titre n'est pas très bien choisi. Enfin, il est tellement bien choisi, les vies minuscules, comme titre, que ça fait écran, et puis ça fait, au fond, croire à des lecteurs un peu hâtifs que vous y parlez des humbles, alors que c'est tout le contraire. C'est un livre dont l'incipit, je le rappelle, est « Avançons dans la genèse de mes prétentions ».
Oui.
On l'a entendu.
Oui, c'était le côté très volontariste de ce livre, ce début. Mais quand même, je parlais aussi des humbles, parce qu'il y avait...
Mais de leurs prétentions.
J'étais beaucoup plus doloriste que maintenant.
Oui.
Voilà. Mais je pense que quand même, dans ce livre, j'essayais de hausser ces personnages minuscules à une dimension plus haute, de les anoblir simplement par le traitement textuel.
Par le fracas du texte, en fait, c'est ça.
Oui,
ce que
par
ça
le
raconte.
Fracas du texte.
Ce que ça raconte, c'est l'intrusion du texte dans le corps.
Oui. Hein? Oui. Le fracas du texte, là, Patrick Boucheron, c'est bien.
C'est moins bien que ce que vous dites dans Trois auteurs à propos de Faulkner, la grande voix invincible qui se met en marche dans un petit homme incertain.
Ouais, ça.
Bah si, ça c'est ça. Être
d'abord, elle n'est pas invincible. Je parle de Faulkner, là.
Oui.
C'est à propos de Faulkner. Oui, je voulais croire que, comment dire, l'homme ne valait pas l'œuvre. Il y a un très bel, dans un poème d'un type qui s'appelle Vladimir Rolan, un long poème tchèque, d'un livre qui s'appelle Une nuit avec Hamlet. Il y a cette très jolie phrase, on dit souvent que plus grand est le poète et plus grand le poème. Non, plus grand est le poème, plus grand est le poète. C'est-à-dire, bon, oui. Il abondait dans le sens que je disais, c'est-à-dire l'œuvre surpasse l'homme. Mais je ne suis plus sûr de cette dichotomie.
Alors comment vous faites maintenant? Parce que vous avez à la fois, dans les cahiers de Lerne, fait lire l'avant-texte des vies minuscules, c'est-à-dire les grands dieux, là encore, on est dans la mythologie, c'est-à-dire qu'avant les vies minuscules, vous avez imaginé, réinventé une grande mythologie, avec des dieux, avec des grands coups de cymbales, là encore, des trompettes et des tubas. Et maintenant, eh bien, vous achevez... On va pas dire la suite, mais disons le répondant, l'écho, la poursuite des vies minuscules.
C'est effectivement un écho des vies minuscules. C'est une poursuite des vies minuscules, mais c'est une image inversée des vies minuscules. C'est-à-dire que il ne s'agit plus, comme dans les vies minuscules, d'un écrivain qui n'écrit pas, du modèle Proust, du modèle Marcel dans la recherche. Il s'agit au contraire d'un écrivain qui a beaucoup écrit, et qui n'est pas tout à fait moi. Non. Là, ça n'est pas la première personne, comme les vies minuscules. C'est à la première personne, pardon. Mais le narrateur n'est pas moi. Et cet écrivain a, on peut dire, a réussi son coup, et il n'a pas tout à fait les mêmes pensées que moi. C'est-à-dire, c'est à l'écrivain qui n'écrit pas répond cet écrivain qui a beaucoup écrit. Enfin, répond. Ils se mirent l'un dans l'autre. Enfin, non, ils se mirent pas l'un dans l'autre, quoique mon écrivain contemporain, enfin celui dont je parle maintenant, connaisse Michon et l'ait lu.
Ouais. Il a réussi son coup. C'est quoi réussir son coup pour un écrivain, Pierre Michon ? C'est quoi réussir son coup ? Parce que c'est une grande inquiétude. Hein. Ai-je raté mon coup ? Vais-je déchoir ?
Je crois que réussir son coup en littérature, c'est assumer ce qu'on écrit. Et j'ai été très long à le faire. Assumer ce qu'on écrit ou ce qu'on n'écrit pas. Même ces silences.
Et le passage entre les vies minuscules et le livre que l'on lira bientôt, ce qui n'est pas tout à fait un scoop, mais pas loin quand même, et vous nous honorez de le dire à ce micro de France
nous.
Culture, mais oui, c'est parce que c'est nous. La vie de Joseph Roulin en 1988 chez Verdier, qui devient votre éditeur, et puis d'autres vies obliques, maître et serviteur en 90, le roi du bois, etc. C'est-à-dire, au fond, une gymnastique des biographies obliques, c'est-à-dire une construction de narrateur.
Oui, mais cette gymnastique de biographie oblique, après les vies minuscules, alors que des critiques, Jean-Pierre Richard, par exemple, avait déjà parlé de biographie oblique dans un livre sur, enfin, un livre, un essai sur les vies minuscules. Ce détour, à part pour la vie de Joseph Roulin, qui était naturel et qui venait très bien dans la suite, ce détour avait quelque chose d'un peu artificiel, était un peu une fuite de ma part. Devant quoi, je ne sais pas, devant quelque chose qui soit dans la lignée des vies minuscules, soit qui rompe totalement avec, comme l'a fait la Grande Beune, par exemple.
C'est, on en parlera.
Peut-être le seul livre qui a rompu, et les 11. Ces deux ont rompu avec les vies minuscules.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le désir, Pierre Michon, d'étancher cette immense soif de fraternité qui caractérise votre œuvre ? Parce qu'au total, ça fait du monde.
Oui.
Que vous peuplez aussi vos livres.
Oui.
Par exemple, les 11. Alors, il y a Abbé, dont on peut dire aussi que c'est une forme de fraternité médiévale.
Oui, voilà.
Mais les 11, l'épigraphe de Baudelaire le dit bien. C'est une immense jouissance que d'élire domicile dans le nombre.
Oui.
C'est important de le dire aujourd'hui,
oui,
Pierre Michon.
Oui.
C'est une immense jouissance que d'élire domicile dans le nombre. Donc, être vivant, c'est n'être pas seul.
Oui. C'est n'être pas seul, c'est évidemment se constituer partie présente d'un ensemble communautaire, enfin qui met communautaire pas dans le sens trop précis, un ensemble, une communauté des vivants,
une fraternité,
mais c'est quelque chose qui m'est venu aussi petit à petit, parce que j'avais grand appétit à participer à cette, et je ne trouvais pas exactement mon endroit, mon lieu d'entrée. Je suis très, j'aime beaucoup la solitude, j'aime beaucoup, mais ma solitude est toujours peuplée. C'est-à-dire que quand j'écris ou quand je me parle à moi-même beaucoup. Je me dis, oui, quelle idée extraordinaire, en faisant du café, je remonte à écrire, je me parle, je fais les rôles, mais non, là tu es dans la méchanceté, ou ouais, non, là, voilà. C'est-à-dire que c'est une mise en scène de tout un groupe d'individus qui sont moi.
Y compris dans vos carnets.
Si bien que, non, mon seul frère, ça n'est pas moi. À moins que ça soit dans une période dépressive, parce que je connais aussi ces
exclu.
Choses-là.
Oui, on a compris.
Et là, les autres moi qui sont en moi ferment tout à fait leur bouche et ne parlent pas.
Alors, Rimbaud, justement, vous parlez de fraternité, vous parlez de solitude. Rimbaud le fils, c'est un roman aussi sur la filiation. Hein. C'est ce fil tendu dont on parlait, c'est aussi le fil tendu entre un père si léger qu'il devient tout vif un fantôme, écrivez-vous, et une mère qui, même si elle s'appelle Vitalie Rimbaud, ouais, des cuifs, ouais. A la main un peu lourde, puisque, vous l'écrivez encore, elle, entre ses doigts noirs, elle broyait sa vie, son fils, les vivants et les morts.
Oui, ses vivants et ses morts.
Rimbaud, c'est autre chose. C'est le modèle abrupt. Ça, vous n'en sortez
oui,
pas.
Oui, Rimbaud, pour moi, est un... comment dire, une sorte d'amour inconditionnel, mais comme pour beaucoup d'entre nous, parce que on le rencontre très jeune, on s'identifie extraordinairement à ce personnage, surtout quand on a des appétits littéraires, et ensuite on a un moment quand même de délaissement pour le personnage, mais ça reste là. Et puis, ça reste littérairement une figure parfaite.
Et puis, vous en avez amené un extrait. Parce que vous êtes aussi un grand lecteur.
Pour le lire.
Oui, pour le lire.
Hein?
Oui, pour le lire.
Ouais. Et je vais le lire, là.
J'en ai peur, oui.
Bon. Je vais lire un poème. Je vais chercher dans Rimbaud ce matin pour cet après-midi un poème très court des illuminations qui est à peu près incompréhensible, mais qui est une sorte de
flèche, d'adresse,
d'hymne, ouais. De stèle. C'est une stèle. C'est une stèle, on ne sait pas si c'est aux morts, aux vivants, ou on ne sait quoi, mais... Et puis, il y a une phrase magnifique pour votre histoire de fraternité, vous allez voir. C'est « Dévotion ». À ma sœur Louise Van Aen de Voringham, sa cornette bleue tournée à la mer du Nord pour naufrager. À ma sœur Léonie au bois d'Ashby, bah, l'herbe d'été bourdonnante et puante pour la fièvre des mères et des enfants. À Lulu, démon, qui a conservé un goût pour les oratoires du temps des amis et de son éducation incomplète. Pour les hommes, à madame, à l'adolescent que je fus, à ce saint vieillard, ermitage ou mission, à l'esprit des pauvres, à un très haut clergé. Aussi bien, à tout culte, en telle place de culte mémorial, et parmi quelque événement qu'il faille se rendre, suivant les aspirations du moment, ou bien notre propre vice sérieux. Ce soir, à Circeto des hautes glaces, grasse comme le poisson, et enluminée comme les 10 mois de la nuit rouge, pour ma seule prière muette, comme ces régions de nuit, et précédant des bravoures plus violentes que le chaos polaire. À tout prix, et avec tous les airs, même dans les voyages métaphysiques.
Donc c'est...
À l'esprit des pauvres,
oui.
À un très haut clergé. C'est extraordinaire, aussi bien pour vos tendances politiques, Patrick Bouchon.
Je ne les connais pas. Personnellement, je ne les connais pas.
Et pour votre place au Collège de France. Attendez, comment c'est déjà ? À l'esprit des pauvres, à un très haut clergé.
Devenir pareil aux morts et superlativement vivant, nous y sommes, Pierre Michon. C'est exactement ça.
J'ai rien entendu.
Eh ben, on écoute de la musique, alors.
Summertime. The living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high.
Matière à penser, Patrick Boucheron.
Toujours en direct et en public du Collège de France, en compagnie de Pierre Michon et d'Ella Fitzgerald, Summertime, 1935. George Gershwin. Quand on a choisi hier cette version, vous m'avez dit, Pierre Michon, que vous souhaitiez l'entendre, celle-là, parce qu'elle était, je vous cite, « pompier, très audible, direct ».
Oui, pompier, très audible, direct.
Alors on y va, on commente.
Je dirais bien que j'aimerais écrire comme ça, enfin que j'écris sans doute comme ça. Enfin, très audible, pas toujours.
Pompier, vous écrivez pompier, Pierre Michon.
Orné, oui,
c'est les cymbales, oui.
Pompier, enfin, non, pas forcément pompier si on pense au peintre pompier, mais plutôt à la façon épique, rurale ou pas, de Courbet qu'à la façon des impressionnistes, oui. Mm-hmm. Donc, le côté pompier qui est dans Courbet, c'est quelque chose que j'admire. C'est le cas de dire les pompiers, parce qu'il y a un tableau qui s'appelle justement les pompiers, où on voit les... oui, pompier n'est pas un adjectif qui me déplaît. Pour moi, enfin, il ne correspond pas évidemment à la peinture pompier, mais c'est le côté... C'est le casque du pompier il y a au siècle dernier où il y a quelque chose de l'hoplite prolétarien dans le pompier. Et c'est quelque chose qui me plaît. Ouais. Oui. Et cette ardeur à aller au feu, finalement, bon, pas pour les mêmes raisons que les militaires, pour des raisons plus louables.
Et ce Mortagne, pourquoi ça vous touche particulièrement ?
Cette chanson me plaît infiniment. Peut-être à cause, surtout à cause de les poissons sautent
et les blés sont hauts. Et le coton est haut. Oui, le coton est haut.
Fish are jumping. Les poissons, non. C'est pas ce qu'on voit en premier dans l'été. Mais tout à coup, on se dit, mais oui, bien sûr, dans les bayous du Mississippi, on voit sauter les poissons. Et aussi, pour l'ascendance comblée, mon père est riche et ma mère est belle.
And the living is easy, et la vie est plus facile.
Et la vie est facile.
La vie est facile.
Quelle meilleure façon d'être vivant, enfin ouais. D'être et en été en plus.
Mais parlons-en justement.
De la vie.
Parce qu'il y a quand même un peu une saisonnalité du fait d'être vivant. Vous n'êtes pas tout à fait de la même manière vivant en été et en hiver. Pierre Michon.
Oui.
Il y a des hivers plus difficiles.
Oui. Dans les 10 ou 15 années, même plus, dans les 20 années qui viennent de s'écouler, j'avais un effondrement hivernal, un effondrement de novembre. Et je pensais toujours à cette phrase si belle, je l'ai dit si, tant de fois, d'Anna Maria Ortez, nous ne sommes pas morts, nous sommes en novembre. C'était, à chaque fois, ça me prenait à ce moment-là, et ça s'arrêtait en mars-avril. Et je pouvais recommencer à écrire quelques phrases en mars-avril, et évidemment en juin, à tout à coup je me disais, mais finalement il fait bon vivre, les vers, je ne suis pas pour le climat, pour les extérieurs. Je marche beaucoup moins à l'âpreté de l'hiver, certains adorent, qu'à la surabondance de l'été. Le don que nous fait le ciel à ce moment-là. Mais cette année, où j'habite de nouveau la campagne, l'hiver change de figure, parce que je vois de près les arbres se dépouiller, etc. J'en vois la beauté.
Donc, oui, parce que nous sommes en direct, hein. On est bien d'accord, on est le 30 janvier 2020 sur France Culture, ouais. Au Collège de France, et vous me semblez
et je ne suis pas
très
effondré.
Vivant, et vous n'êtes pas effondré.
Pas assez, sans doute. Parce que c'est bien aussi d'être effondré aussi, à la radio.
Ah oui, c'est très radiophonique, oui.
Ah oui, le malheur, Dieu pâle aux yeux d'ivoire. Oui, mais je ne le fais pas aujourd'hui.
Très bien, et d'ailleurs, vous vous souvenez de la toute fin des Vies minuscules, vous parlez de « que dans mes étés fictifs, leur hiver hésite ». C'est ça ?
Ah oui.
Eh oui.
Ah, c'est vrai.
L'hiver hésite.
Oui. Que dans mes étés fictifs, leur hiver,
dans mes
leur
étés
hiver
fictifs.
Hésite. C'est comme si L'été, l'abondance des vers, l'abondance solaire, était quelque chose d'aussi fort que la fiction. Quelque chose dont on se demande, mais comment a-t-on pu inventer ça? Alors que l'hiver, le réel est en son règne.
Votre grand roman de, je vais dire du vitalisme, enfin de du être vivant, Pierre Michon, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est La Grande Beune.
Oui, mais la Grande Beune, c'est ça se passe en hiver, c'est bien.
Oui.
En novembre en novembre.
Oui, mais dans ce que vous appelez dans un autre livre, oui, mythologie c'est... d'hiver, l'hiver impeccable des livres.
Oui, oui, mais. L'hiver de la Grande Beune est un, comme un, en fait, ça n'est pas un livre vivant, c'est un livre de désir physique, sexuel. Et j'avais commencé, la première version de la Grande Beune se passait en été, et ça ne marchait pas, enfin en septembre, à la fin de l'été. Ça ne marchait pas. C'était, là, l'hiver est comme des rasoirs qui aiguisent le désir. Enfin, c'est un hiver fantasmatique, c'est un hiver fictif. Mmh. Ça n'est pas l'hiver réel.
Vous aimez bien vos lecteurs qui aiment particulièrement La Grande Beune. C'est-à-dire quand on demande quel est votre livre préféré de Pierre Michon, oui. Chacun peut avoir voilà, sa réponse. Moi, mon petit cœur de médiéviste frémit ou tressaute. Vous le savez, avec AB, Mythologie d'hiver, oui. Même Le Corps du Roi. Mais ceux qui lisent La Grande Beune, ceux-là, ils vous plaisent particulièrement.
Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que, d'abord, c'est sans doute le plus simple de mes livres. C'est celui qui a été fait, non, parce que AB aussi a été fait de façon très décontractée, mais avec le plus de facilité, ou on peut dire de passage à la ligne.
Dans un entretien, vous avez dit tchac, tchac, tchac. Vous l'avez fait comme ça, tchac, tchac, tchac.
Oui, oui, ouais. Oui. Oui, c'est un livre sans dolorisme de fond. Parce que le garçon qui raconte l'histoire est malheureux, mais parce qu'il n'ose pas faire un pas vers la dame qu'il désire. C'est un livre qui me plaît. Même, comment dirais-je, je dirais pas... mais à tous les points de vue, par exemple, c'est un livre où il y a le plus ancien,
les peintures
préhistoriques, la préhistoire.
Même pas les peintures, la grotte de Lascaux avant que les peintres n'y entrent.
Oui.
Lorsqu'ils découvrent ce drapé, le calcite, qui attend la peinture. C'est avant... Oui, l'événement de Lascaux.
Mais il y a beaucoup de points communs entre les 11 et la Grande Beune.
Ne serait-ce que ça, ne serait-ce que ce drapé. Oui.
Entre autres, mais il y a aussi la sauvagerie, la sauvagerie, qui n'est pas la même dans les deux cas, mais la férocité, disons. Férocité du désir, dans le cas de la Grande Beune, et férocité des frères se dévorant entre eux dans les 11. Et il y a aussi un point de jonction entre les 11 et ce que je fais en ce moment, c'est que dans les 11, l'artiste mis en scène n'est pas comme d'habitude quelqu'un que je plains ou que je loue ou que j'admire ou que comme l'était Van Gogh ou Watteau, etc. dans mes textes précédents, mais un génie, mais un véritable salaud. Comme peut-être le narrateur du livre que j'écris en ce moment, qui n'est pas vraiment un salaud, il n'est pas méchant, il n'a aucune méchanceté.
Celui de votre narrateur de l'écho des vies minuscules.
Oui.
Parce qu'il y en a un autre aussi. On peut continuer à donner des bonnes nouvelles ce soir, Pierre Michon. Vous poursuivez aussi la Grande Beune.
Oh, Patrick Boucheron veut me faire dire des choses. Oui.
Bah, voilà.
Je l'ai même poursuivi et le deuxième volet est fini, mais j'attends d'avoir fini le livre principal pour le publier. Mais le deuxième volet, je me dis, est-ce que ça va marcher ? Parce que Ce que les lecteurs, sans doute, et moi-même, aimaient dans ce qui est publié, c'est cette fin abrupte, sans acte amoureux, ni rebuffade amoureuse, d'ailleurs, sans passage à l'acte, tout simplement, et cette fin qui dit le fleuve continuait, le monde continuait de tourner. Alors les gens vont dire, ah oui, maintenant il fait dans la facilité.
Et enfin nous dormions tous, la beune continuait.
Oui, et enfin nous dormions tous, la beune continuait.
Ben oui, ben faut continuer.
La beune continue, j'ai pas besoin de continuer.
Vous avez une passion pour Emma Bovary.
Pour
Emma Bovary. Pour Madame Bovary. Pour Flaubert.
Oui. Ah oui, pour Bovary, oui, oui. Évidemment, oui.
Mais non, parce qu'on parle de désir. On parle de... C'est une passion amoureuse.
Oui, j'ai une passion amoureuse pour Emma et pour le livre d'Emma. Mais j'ai des passions amoureuses pour beaucoup d'autres livres, pour Les Misérables, par exemple, pour Le Bruit et la Fureur. J'ai beaucoup de passions amoureuses pour les livres. Vous savez, je suis très, souvent très attaché aux derniers livres que j'ai lus. Mais il y a ceux auxquels je reviens sans arrêt, dont évidemment Madame Bovary, qui est une perfection, qui est une là justement le conflit, enfin l'alliance de la joie et de la mort sont sans cesse.
Et d'ailleurs dans le roi vient quand il veut, le livre d'entretien que vous avez consacré, je ne sais plus quelle année, proposé à la littérature en 2007. Ouais. On vous demande est-ce qu'il y a des passages ratés dans Madame Bovary, vous dites non, j'en vois pas, et puis il y a un sommet, vous vous souvenez, c'est la scène d'amputation du pied bout. Qui est pour vous le moment, au fond, le plus vivant.
Ah oui, oui.
Et on est toujours sur notre thème, Pierre Michon, c'est-à-dire que c'est quand même un moment d'amputation.
Ah oui, oui. Oui, c'est pas l'amputation. Il avait fait une opération pour guérir son pied beau,
oui.
Ce pauvre mais, et évidemment, ça a empiré le pied beau. Et là, il y a de la part de Flaubert un mélange de férocité, enfin, dans le grotesque de Homais, de Bovary, de ce pauvre garçon, j'ai oublié son nom, Hippolyte. À la fois, il est féroce envers eux et d'une pitié extraordinaire.
Oui. Et puis, il y a une phrase que vous aimez particulièrement. Une vaste boîte recouverte de basane rouge dont les trois fermoirs de cuivre brillaient magistralement.
Oui, mais c'est à cause du magistralement.
Ben oui, j'ai compris.
C'est à cause de l'adverbe flaubertien et aussi, enfin... du fait que c'est le matériel médical, donc quelque chose qui, pour Flaubert, dont le père était médecin, est extrêmement marqué.
Bon, dites-moi, Pierre Michon, vous avez parlé à deux ou trois reprises de férocité, hein, poésie féroce, férocement, etc. Les livres qui vous rendent vivant, les livres qui vous rendent féroce, alors ça peut être le dernier que vous avez lu, mais dans « Toujours le roi vient quand il veut », vous parlez de la force de sommation de la Bible.
Oui.
Vous y dites, Homère, c'est très beau, mais le texte se parle à lui-même, il n'a pas besoin de moi, donc en fait il est mort, alors que la Bible, au contraire, m'intime, m'appelle, elle a besoin de moi, et je vous cite, parce que là encore, nous sommes dans notre thème, être vivant, si quelque chose de biblique se réveille en moi, c'est que la Bible me somme d'être vivant.
Oui. Oui, qu'est-ce que je voulais dire là?
Vous vouliez parler de férocité. Vous vouliez dire que dans la Bible, on.
Je pensais plutôt au Nouveau Testament là.
Je crois pas. Vous parliez d'Élie.
Élie. Oui, bien sûr, Élie. Ah oui, mais Élie, c'est comment dire, pour être vivant, c'est le champion, parce que.
C'est le seul homme qui ne mourut pas.
C'est le seul homme qui n'est pas mort. Monté directement. Swing low, sweet chariot. On aurait pu jouer ça aussi. Il est monté directement, on ne sait où.
Au ciel.
Il est pas
tout vif.
Oui. Oui. Tout vif.
Il n'est pas mort et ressuscité.
Parce que le Christ est mort.
Oui.
Et dit non. Je lisais dans je ne sais plus quel livre, j'ai piqué d'ailleurs, j'ai mis aussi dans le mien, c'est dans un livre américain, parce que les Américains, pour la Bible, ils sont nickel. Voilà, la supériorité des Américains sur nous, c'est qu'ils connaissent la Bible parfaitement. Bref. Et quelqu'un dans un roman, peut-être de Roth, je ne sais pas, dit, oui, mais il y a 3000 ans qu'on n'a pas vu le prophète Élie.
Oui. Voilà.
Donc, il y en a marre d'attendre.
Vous citez d'ailleurs une phrase de Jean Grosjean, dont on parle pas si souvent, mais qui est quand même voilà, un écrivain important, qui évoque Élie, justement, qui se promène dans un cimetière de campagne.
Ah oui.
Et c'est « Les morts sous les orties rêvaient du ciel dont ils avaient rêvé. »
Oh, c'est magnifique.
Rêvaient du ciel
les
dont ils avaient rêvé.
Les morts sous les orties rêvaient du ciel dont ils avaient rêvé. C'est parfait. Ça ne dit rien qu'on puisse expliquer. C'est simplement cette... continuité de l'illusion qui n'est pas une illusion.
Un peu médiévale quand même, hein ? Un peu médiévale cette illusion.
Cette phrase ?
Oui.
Oui.
Rêver du ciel dont ils avaient rêvé.
Oui. Oui.
C'est curieux, le Moyen-Âge pour vous, ça vous sert à la fois à être très orgueilleux et très humble. Ça vous sert au fond à vous arracher de ce que vous appelez le grand cirque du génie, enfin voilà, l'écrivain romantique, puisque voilà dans Abbé, dans Mythologie d'hiver, avec des scribes, mais en même temps ces scribes se hissent sous les ailes des anges.
Oui, c'est un chantage imparable de ma part. Enfin, imparable, très parable. Mais c'est difficile d'être en représentation pour un auteur entre le cabotinage et le trop d'humilité, de modestie.
Vous entendez la musique, ça veut dire que c'est terminé. Merci Pierre Michon.
Merci. Merci Patrick Boucheron.
Matière à penser, Pierre Michon, Mathieu Leroy, Alexandre Dang, Rémi Gouriou, Sandrine Chaperon, Thibaut Nassim Ben, tous les techniciens du CDM que je remercie, Anne-Pascal Desvignes, Patrick Boucheron. Demain, dernière émission de la semaine de Matière à penser sur le thème « Être vivant » avec René Friedman. À bientôt.